Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Éclairage avec un thème bien particulier cette fois-ci pour cette rentrée droit, liberté et foi. C'est une conjugaison, une forme de triptyque avec lequel nous allons devoir nous expliquer avec vous-même, maître Thierry Massis. Bonjour maître.
Bonjour.
Vous êtes l'avocat de l'Église. Est-ce qu'on peut vous présenter comme ça, l'avocat de l'Église, sur toutes les questions concernant la liberté d'expression ?
Vous pouvez tout à fait me présenter comme ça. Il est exact que j'interviens depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, même pour toutes les questions relatives au rapport entre le respect des croyances, liberté d'expression et défense de l'Église dans les médias.
Église et justice s'entendent parfois quand même.
Tout à fait.
La preuve en est ce cycle de trois conférences, 21 septembre, 28 septembre, 4 octobre, avec pour thème « Droits et conditions humaines » cette année.
Ce sont des conférences, je tiens à le dire, qui ont démarré il y a plus qu'une dizaine d'années. Il y a déjà eu 8 cycles. L'idée centrale est que l'Église, qui réfléchit sur les grandes questions, prête son concours avec le barreau pour aussi réfléchir sur les grandes questions de société. Les conférences sont d'abord parties sur le terrain très étroit de la liberté religieuse. La première conférence concernait en 93 tout le débat qui concernait la liberté religieuse et c'était un petit peu, j'allais dire, prophétique car à ce moment-là, les questions n'étaient pas aussi sensibles qu'aujourd'hui. Et ensuite, ces conférences se sont ouvertes de plus en plus aux questions de société liées le plus souvent à l'actualité. Je tiens à préciser que, par exemple, on a traité la question de la responsabilité au moment où il y avait tout le débat sur la responsabilité du sang contaminé. On a traité les questions de conscience aussi lorsqu'il y a eu tous ces problèmes liés à l'euthanasie, liés à la mort. Enfin, il y a donc une espèce de rythme qui est donné par l'actualité et les événements de la société.
Cycle de conférences, c'est le 9e cycle, sous la présidence, la coprésidence de Mgr André Vintroy, archevêque de Paris, et de M. Yves Piquet, bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris. C'est vous qui êtes un peu à l'origine de toute cette histoire quand même.
C'est moi qui suis un petit peu à l'origine de toute cette histoire. Pour vous raconter très très brièvement, j'avais été confronté comme avocat à un problème de presse qui mettait en cause l'Église et qui mettait en cause un problème très important, l'affaire du Carmel d'Auschwitz, dans lequel il y avait eu des diffamations dans un journal. Je n'étais pas du côté de l'Église, j'étais de l'autre côté, et j'ai ressenti la nécessité, sur toutes ces questions, d'une réflexion. D'abord parce que les magistrats étaient extrêmement demandeurs, et en second lieu parce que ces problèmes de fond ne peuvent être pris qu'en amont. D'où l'idée de susciter, d'une manière sereine et libre, des grands débats sur, notamment, le problème du respect des croyances par rapport à la liberté d'expression, la conscience. Donc voilà un peu le processus et le cardinal Jean-Marie Lustiger a trouvé ça extrêmement intéressant et a beaucoup poussé ce projet qui a vu le jour il y a une dizaine d'années.
Dans quel sens les magistrats étaient-ils demandeurs ?
Les magistrats étaient demandeurs dans la mesure où l'Église n'est pas représentée lorsque il y a un débat où il y a des questions religieuses dans lesquelles ils sont saisis. Il n'y avait que des associations, j'allais dire, marginales, tout à fait respectables, qui exprimaient certaines tendances un peu rigoureuses de l'Église et qui n'étaient pas représentatifs de l'Église en général. Donc, les magistrats ont été très contents de voir, car l'une des conséquences de ces conférences a été la constitution d'une association qui s'appelle Croyance et Liberté, qui est une association de défense de l'Église et qui est composée de la Conférence des évêques de France. Le cardinal Lustiger a donné une grande impulsion, ainsi que Mgr Billet.
Vous parliez du Carmel d'Auschwitz, c'était l'élément déclencheur pour vous-même. Là, vous vous êtes dit, il faut faire quelque chose à ce moment-là ?
Oui, je me suis dit, il faut faire quelque chose à ce moment-là parce que j'avais en face de moi une association traditionnaliste et qui, je crois, ne voyait pas tous les enjeux que comportait l'affaire du Carmel d'Auschwitz, ses implications théologiques, ses implications historiques. Et je me disais là, on est dans un débat très, très, très difficile où il y a des risques de condamnation qui pourraient amplifier les choses. Donc c'est à cette occasion-là que, oui, je me suis dit qu'il fallait au moins mettre en place des systèmes différents.
Est-ce que vous pouvez déjà dire que ces conférences, d'une certaine façon, ont déjà porté leurs fruits ?
Je pense que ces conférences ont porté leurs fruits. D'abord, les fruits du barreau. Je crois que le barreau est très, très demandeur de ces conférences. Et dans les précédentes années, il y avait beaucoup de monde. Et je crois que ça répond à une demande très précise que l'avocat n'est pas seulement un technicien, il a une demande autre de réfléchir sur son métier, sur les grandes questions qu'impliquent les règles de droit. Les fruits aussi, parce que je crois qu'on a, en ce qui concerne l'Église, à cette occasion, s'est montré, j'allais dire, contrairement à ce qu'on peut penser, extrêmement ouverte et un lieu de liberté.
Alors, un très beau plateau, quand même. On peut revenir sur les menus que vous avez vous-même assaisonnés, si je puis dire. D'abord, peut-être le 21 septembre. Donc, le thème cette année, c'est « Droit et conditions humaines ».
Oui, c'est droit et conditions humaines parce qu'il semble qu'aujourd'hui qu'il y a des grandes questions de notre société sur la condition humaine. Questions anthropologiques par rapport notamment à la sexualité, le rapport homme-femme, questions par rapport à la liberté de penser, questions aussi de la place de l'homme, de la place de sa condition dans le monde international. Donc, au départ, il y avait une espèce de confusion totale entre le droit et la condition humaine. Enfin, il n'y avait pas de contestation. Le droit se moulait dans la condition humaine, notamment pour le mariage homme-femme, bien évidemment. Et maintenant, il y a une sorte de décalage qui s'opère dans la mesure où il y a d'autres revendications qui sont des revendications anthropologiques particulières, notamment le droit à l'homosexualité, le couple homoparental. Enfin, toutes ces questions qui montrent que le débat sur la condition humaine est aujourd'hui très, très sensible.
Ce qui était évident ne l'est plus.
Ce qui est évident ne l'est plus. Et à ce point, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus de sexualité par rapport à l'homme ou à la femme, mais on parle d'orientation sexuelle. Ce qui est un gros problème aujourd'hui. Les textes internationaux consacrent l'orientation sexuelle et évacuent, si je puis dire, le débat anthropologique qui est si fondamental et auquel l'Église, j'allais dire, est au cœur même.
Cette terminologie, pour prendre précisément un exemple comme l'orientation sexuelle, c'est une terminologie retenue par les avocats. Vous-même, vous êtes obligé de vous plier à cette terminologie.
Nous, avocats, et je parle par exemple pour le délit d'homophobie, le délit d'homophobie parle de diffamation à raison de l'orientation sexuelle. Donc, c'est un concept qui est rentré dans le droit positif et nous devons faire avec. Et cela provient du traité d'Amsterdam et les grands textes internationaux l'ont donc consacré. Vous savez que cela traduit ce mouvement très important de ce qu'on appelle la théorie du gender. C'est-à-dire on n'est ni homme ni femme, on choisit. Voilà.
L'orientation, c'est quelque chose qu'on choisit.
On choisit. Voilà. Il y a un choix de la sexualité, c'est ni bon ni mauvais, tout le monde est au même niveau. Et je crois que les conférences abordent ces questions dans une certaine sérénité, liberté, rappellent le débat anthropologique. Et nous aurons un grand conférencier théologien, Xavier Lacroix, qui a énormément travaillé sur les questions de la différence des sexes, qui est à la fois théologien et qui, je crois, va bien resituer ce débat par rapport à l'anthropologie, par rapport à la théologie et par rapport aux grands textes bibliques.
Mais dès lors que les avocats accréditent l'idée de l'orientation sexuelle, du moins en étant obligés de reprendre ce terme, puisque c'est de celui-là que nous parlons, comment l'Église peut-elle faire valoir sa vision du monde si déjà les concepts, entre guillemets, de l'adversaire sont avalisés?
Les concepts sont avalisés en droit positif. Ça ne veut pas dire que l'Église les avalise en tant que telle. Et on a beaucoup de cas dans lesquels, par exemple, pour l'avortement, cela est légalisé par la loi, mais il n'empêche que la position de l'Église est à cet égard différente et qu'elle fait jouer ce qu'on appelle la clause de conscience. Donc, sur l'orientation sexuelle, c'est un peu difficile, quand on plaide sur les questions d'homophobie ou autre, d'invoquer un débat anthropologique. Je vois difficilement le juge trancher cette question, mais nous sommes aujourd'hui dans une situation où il y a une contradiction entre le droit positif et le droit de l'Église sur beaucoup de choses. La question du sida, c'est la même chose. Donc je crois que...
L'idée même de droit naturel est contestée.
Est contestée. L'idée de droit naturel est contestée aujourd'hui parce qu'on estime que le droit se construit par catégorie, par groupe de pression et que la loi n'est que l'expression de la majorité d'une certaine catégorie qui fait qu'aujourd'hui on assiste tout à fait à des revendications catégorielles.
Pour prendre l'exemple de cette première conférence, donc le 21 septembre, c'était à l'école cathédrale tout près de Notre-Dame à Paris. Pour prendre cet exemple, les avocats ne sont-ils pas confrontés à une situation aujourd'hui qu'ils ne connaissaient pas auparavant? Avant, c'est d'être précisément en face d'affaires liées à l'homophobie, à la famille. Tout devient très complexe, Alors qu'autrefois, peut-être, ces choses-là oui. n'étaient pas amenées sur,
c'est tout à fait vrai.
Sur la place des tribunaux.
C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a un caractère institutionnel d'un certain type de famille. Toutes les revendications homosexuelles, notamment sur l'adoption, sur la délégation de l'autorité parentale, les avocats sont aujourd'hui, j'allais dire, directement, de plein fouet, doivent sur ce terrain-là jouer leur mission. Mais là aussi, je pense que c'est la clause de conscience qui peut jouer. Encore, il faut peut-être avoir ça avec beaucoup de compassion, parce qu'il y a des problèmes, notamment des problèmes liés à la souffrance, les problèmes liés à la rupture, qui peuvent avoir une réponse juridique et auxquelles l'avocat doit sûrement répondre.
Vous-même, sur les questions alors d'homoparentalité, vous voyez les choses évoluer sur le plan, sans être bien sûr un devin, ni faire de loi ou de juridisme fiction, vous voyez les choses évoluer de quelle manière ?
Je crois qu'il y a un mouvement important sur l'homoparentalité. Je ne pense pas que c'est totalement pour tout de suite, car je crois qu'il y a des freins très importants au sein de la société et on prend conscience tout de même des dangers que cela peut constituer. Par contre, je pense que, en ce qui concerne le mariage des homosexuels, je crois que là, dans 4-5 ans, nous arriverons à un moment, je pense que ce sera inévitable. Je me rends bien compte qu'aujourd'hui, les hommes politiques se sont positionnés et aujourd'hui, certains se sont positionnés contre. Donc, j'allais dire, il y a un certain espoir.
Alors, cette première conférence, donc, avec Xavier Lacroix, vous en avez parlé. Philippe Mallory, également professeur émérite à l'Université Paris 2. Et Françoise Ostallier, ancienne secrétaire d'État à l'enseignement scolaire, membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Voilà, droits de conditions humaines et couple pour cette première conférence. On passe à la seconde, si vous le voulez bien, Maître Massis. Jeudi 28 septembre, on évoque plus là les questions liées à la liberté d'expression.
Tout à fait. Ici, là, c'est la deuxième partie, c'est la condition humaine et la liberté d'expression. La liberté d'expression est un élément constitutif de la condition humaine et c'est s'interroger aujourd'hui sur la place de la liberté d'expression, de la liberté de penser au sein de notre société. Alors, on sait que là aussi, il y a eu des mouvements cette année où on s'est bien rendu compte qu'il y a eu des remises en cause de ce principe. Je pense notamment à l'histoire avec la loi concernant le regard positif que l'on doit poser sur l'aspect colonial. Je pense aussi à la position des historiens à cet égard qui a contesté toute ingérence de la loi dans l'histoire.
Vous-même, vous contestez cette ingérence ?
Oui, je la conteste et d'ailleurs, je le dirai, je pense que cette ingérence de la loi dans l'histoire est dangereuse pour la liberté de l'historien, pour la recherche historique et fait qu'on arrive à une espèce d'histoire officielle et on le voit bien, notamment sur la loi Taubira concernant l'esclavage.
2001.
Dans lequel un historien très très connu, M. Petré Grenouillot, a été mis en cause parce qu'il n'a pas reconnu le caractère de génocide. Et donc on a là un débat, si vous voulez, complètement surréaliste, d'un tribunal qui est saisi sur une question qui n'a rien à faire avec l'honneur, rien à faire avec la considération des personnes, mais qui est un débat historique sur lequel le juge n'a pas à trancher. Je sais bien que c'est difficile parce que il y a peut-être des lois nécessaires, songe notamment au négationnisme, mais je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Et là, il y a une mise en garde qu'il faut, à mon avis, exprimer.
Alors, vous l'avez dit, il y a bien des lois qui protègent contre le négationnisme, mais dès lors que l'on a institué des lois précisément combattant le négationnisme, on est tout de suite obligé de satisfaire aussi à d'autres revendications qui s'estiment tout aussi honorables que la cause négationniste.
Tout à fait. Donc, il y a une revendication. Aujourd'hui, on a eu la loi sur le génocide arménien. On a eu la loi Taubira.
Il faut leur dire non aux Arméniens ?
Non, je pense que là aussi, est-ce qu'il était nécessaire qu'une loi intervienne ? Une loi qui est seulement déclarative, d'ailleurs. Donc, est-ce qu'il fallait qu'une loi intervienne à cet égard pour quel tel type de revendication? Je pense que aujourd'hui, et j'ai vu une proposition du Parti socialiste qui voulait instituer une sorte de loi Guesso, disant que si on contestait le génocide, c'était une infraction. Donc, je crois que Je crois que ce mouvement de reconnaissance par le Parlement d'événements historiques de très grande souffrance ne me paraît pas entrer dans le cadre du rôle du Parlement.
Mais alors, vous voyez bien, si on en reconnaît un, il faut tous les reconnaître.
Exactement.
C'est toujours la même question. C'est pour ça que je parlais du négationnisme.
Bien sûr, c'est évident que la...
Et ça devient inextricable.
C'est-à-dire que la loi Guesso a ouvert une boîte de Pandore, et il faut savoir que la loi Guesso, dès sa promulgation, avait été contestée par des historiens qui eux-mêmes n'étaient pas dans ce sens-là, et Madeleine Robert-Hugh notamment, avait bien dénoncé en disant « faites attention, cela va s'appliquer à autre chose, à autre cas, dans d'autres cas ». Et on l'a bien vu dans le cas des Arméniens, où il y a eu une tentative avant que la loi ait été promulguée, de demander l'application de la loi Guesso, c'est la mise en cause de l'historien anglais Lewis.
Alors vous-même, vous parlerez de la liberté d'expression, quelles restrictions ?
Tout à fait.
Est-ce qu'on sait déjà où le curseur doit être mis ?
Je pense que le curseur doit être mis dans un véritable équilibre entre la liberté d'expression et le respect des personnes. Et que je crois que certaines dispositions particulières, je sens notamment à l'homophobie, me paraissent heurter la liberté d'expression dans la mesure où il est très difficile aujourd'hui de parler de l'homosexualité, de critiquer l'homosexualité sans être poursuivi pour homophobie. Il y a déjà une décision qui a été rendue à Lille où peut-être il y a eu des propos excessifs, mais qui, à mon avis, rentrer dans le débat familial, dans le débat de société. Donc je crois que c'est ces lois d'exception qui sont rajoutées à la loi sur la presse, parce que la loi Guesso, ça a été rajouté, l'homophobie, ça a été rajouté, reste le débat plus difficile de la diffamation à raison de la religion. Et là, un certain curseur a, je crois, a été posé. J'ai moi-même plaidé cette affaire Marité-François Girbeau, qui représentait, je vous rappelle, la scène.
Une parodie de la scène.
Une parodie de la scène. Il y avait une présentation détournée de l'acte fondateur de la foi, du Jeudi Saint, dernier repas du Christ. Parce qu'il y avait un caractère marchand, les juridictions ont interdit cette affiche. On verra ce que dit la Cour de cassation. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est au juge de dire ce qu'il doit. Qu'est-ce qui doit l'emporter ? Est-ce que c'est la liberté d'expression ? Est-ce que c'est le respect des personnes ? Mais la loi ne doit pas venir, j'allais dire, perturber cet équilibre.
Autrement dit, on peut simplement s'en référer à l'avis du juge et ne pas avoir
par
un verdict,
par rapport
un avis
lois.
Obligatoire.
Voilà. Je songe beaucoup aujourd'hui, j'espère qu'en matière de loi sur l'homophobie, il va y avoir une espèce de jurisprudence qui va équilibrer les choses. Car on ne sait pas où on va sur ce terrain-là.
Comme pour les questions liées au couple, thème de la première conférence dont nous avons parlé, celles liées à la liberté d'expression prennent somme toute aussi un peu de cours les magistrats et les avocats. Parce que ce sont des sujets quand même nouveaux, la
oui,
loi Taubira,
oui.
La loi
oui.
sur l'homophobie.
Oui, oui. Ce sont des lois qui bougent. Ça remet en cause, si vous voulez, les règles traditionnelles, le comportement, les structures de pensée, les structures de pensée traditionnelles. Et il y a là aussi, et c'est l'intérêt de ces conférences, c'est d'actualiser les connaissances et de montrer la complexité du droit aujourd'hui. Nous sommes dans une époque tout de même où la liberté de penser est plus diffuse et où les tendances de la pensée dominante sont tout de même assez présentes. Je songe au débat d'Alain Finkielkraut notamment, qui parlera. Il est sûr que le procès qu'on lui a fait n'est pas un bon procès. C'était un procès de liberté d'expression. Je crois que ce serait intéressant d'avoir son avis.
Vous voyez quand même se réduire le champ de la liberté d'expression. C'est comme ça qu'on peut résumer les choses.
Je ne dis pas que ça soit aussi vigoureux, mais je dis qu'il y a un problème de fond là-dessus. Nous l'avons vu aussi, enfin l'expérience en ce qui concerne Benoît XVI. La façon dont les choses ont été interprétées montre bien qu'on est dans une certaine difficulté de la liberté d'expression.
Le dialogue paraît beaucoup plus difficile, effectivement, aujourd'hui, que peut-être dans une période un peu plus récente, un peu plus lointaine, plutôt.
Je pense que le dialogue est plus difficile. Je pense que c'est dû aussi à pas mal d'éléments techniques, mais aussi à ce qu'il y avait, je pense notamment dans l'entre-deux-guerres, une des polémiques beaucoup plus violentes, mais qui se respectaient l'un l'autre, sauf l'antisémitisme qu'il faut bien évidemment exclure. Il y avait là un respect de la liberté de penser que je crois nous avons moins aujourd'hui.
Et il y avait un débouché dans la presse, puisque les polémiques trouvaient un écho dans la presse directement, alors qu'aujourd'hui les choses sont beaucoup plus
Tout à fait.
Diffuse, verrouillée en amont.
Oui, tout à fait. Et puis en plus, je pense que certains modes de démonstration exigent un certain temps et on a une difficulté dans le climat technique aujourd'hui, notamment par le formatage de la pensée, les SMS et autres, fait qu'il est évident que le discours du pape, il est incompréhensible sur SMS. Hein.
C'est certain. Donc les médias jouent d'une certaine façon... contre la liberté d'expression.
Oui, oui.
C'est un paradoxe, mais on pourrait le relever. Alors, c'est au menu donc, du jeudi 28 septembre à l'école cathédrale pour cette deuxième conférence « Droit, conditions humaines et liberté d'expression. Pensez librement dans la société » Alain Finkielkraut, philosophe. Vous-même, maître Thierry Massis, qui parlerait des restrictions avec un point d'interrogation à la liberté d'expression. La liberté de création et la dignité de la personne. Et là, vous avez fait venir quelqu'un, président du BVP, Jean-Pierre Tessier.
Oui, c'est intéressant. Nous avons venu faire vraiment un professionnel, le président du bureau de vérification de la publicité, parce qu'il est confronté quotidiennement à cette question du respect de la personne, notamment dans la publicité religieuse, dans la publicité qui prenne en considération la dignité humaine. Il est donc confronté tous les jours à donner un feu vert, à ne pas le donner. Je crois que son expérience sera très intéressante pour voir quelles sont les lignes aujourd'hui de la publicité. Il a des montées très importantes par rapport aux handicaps, par rapport aux demandes de ce type. Et que doit faire le publicitaire et quelle est sa déontologie?
Troisième conférence, si vous le voulez bien, maître Thierry Massis, donc avec nous pour cet éclairage au sujet du cycle Droit, Liberté et Foi. C'est le neuvième cycle qui a pour thème cette année Droit et conditions humaines. Troisième conférence, le 4 octobre, Droit, conditions humaines et démocratie. N'y a-t-il pas une redondance entre Droit, conditions humaines et démocratie, Droit, conditions humaines et liberté d'expression?
Vous pouvez le lire comme ça. L'idée, c'était d'ouvrir sur le régime politique, sur l'organisation sociale et surtout sur l'ordre international. Et d'avoir une réflexion sur le monde par rapport à quelle est la place de la personne aujourd'hui, quelle est la place de l'homme et de la femme dans l'ordre juridique international. En plus, l'idée vient aussi de faire intervenir Marcel Gauchet sur est-ce que la loi suffit à la démocratie? Est-ce que seulement la démocratie peut-elle être créée par la loi? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres valeurs? Et Gauchet a beaucoup écrit là-dessus, sur le désenchantement du monde, toutes ces questions, la condition historique de l'individu. Donc,
un pays qui a trop de lois est un pays corrompu.
Corrompu, le mot est un peu fort.
Enfin, moralement corrompu, peut-être, puisqu'on est obligé de mettre des garde-fous partout.
Oui, non, je corrompu, le mot me paraît un peu fort. Par contre, c'est une société qui n'arrive plus à poser ses valeurs. Le caractère répétitif de l'action législative fait qu'on a une espèce de perte de repères.
Hubert Védrine pour les droits fondamentaux dans l'ordre juridique international. Quel sera l'apport d'Hubert Védrine dont on connaît la connaissance technique?
Je crois que Hubert Védrine va donner son expérience des institutions internationales et surtout, il va par rapport au mondialisme nous dire comment l'individu, est-ce que l'homme existe juridiquement par rapport à l'ordre international et quelle est la place des droits fondamentaux dans ce magma international aujourd'hui, dans ce nouvel ordre juridique international. Ça sera, je crois, une conférence très 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 intéressante où il donnera, je crois, pas mal son expérience politique.
Évidemment. Donc, maître Thierry Massis, vous-même, peut-être faut-il le préciser, vous êtes le petit-fils de l'académicien Henri Massis. Est-ce que vous avez gardé des souvenirs de votre grand-père, d'une certaine époque, une certaine forme d'enseignement, de leçon de vie?
Écoutez, oui, je suis très très heureux d'être là et à la fois ému. Il est sûr que j'ai très bien connu mon grand-père. Leçon de vie, bien sûr, je crois qu'il y en a deux. D'abord, je pense que c'était un homme qui avait une très grande liberté d'esprit et que certes il avait des positions très claires et il s'est engagé, on le sait, politiquement, mais il avait toujours un respect de l'adversaire, du combat, des idées.
Et ça manque aujourd'hui peut-être aussi.
Je pense, deuxième chose, je crois qu'il y avait, ça dépasse un peu la propre conférence, mais c'est un homme de la littérature. C'était un homme qui mettait dans la littérature un peu quasiment au-dessous de tout. Et cette passion de la vie littéraire qui a été sa vie, eh bien c'est un très bel exemple, qu'il donne. Et je suis tout à fait à cet égard, j'ai reçu beaucoup de lui, c'est sûr.
Vous vous êtes aussi beaucoup intéressé aux figures intellectuelles d'avant-guerre.
Oui.
Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre la vigueur du débat intellectuel avant-guerre et peut-être son atonie aujourd'hui?
Je crois que c'est très difficile à comparer, mais je crois qu'il y avait une très grande vigueur. Je crois que c'était dû par l'écrit, dû par les rencontres, dû par un rythme de vie qui faisait les gens venaient aller déjeuner chez les uns et les autres. Il y avait des journées, je pense aux Maritains, je pense chez Peggy. On passait, il y avait une espèce de réflexion permanente qui fait que sortait des textes, sortait une réflexion très, très, très forte. Et puis en second lieu, je crois qu'on avait le goût du combat intellectuel, c'est-à-dire que ça faisait pas peur. On écrivait, on répondait et on avait une espèce de liberté.
Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre la multiplication des revendications dans tous les domaines, en particulier celles liées au couple, celles liées aux revendications catégorielles sur la mémoire par exemple, et le fait que précisément le goût du combat intellectuel soit moins vigoureux ?
Oui, parce que il y a sûrement un paradoxe, mais je crois aussi que la montée d'un certain nombre de devoirs de mémoire, de règles, de catégories, de revendications catégorielles, fait sûrement qu'il y a une nasse, une espèce de, je dirais pas d'interdit, mais une espèce de pensée dominante qui fait que c'est plus difficile aujourd'hui d'exprimer une pensée libre que ce n'était entre-deux-guerres.
Malgré les moyens d'expression qui apparemment sont très nombreux.
Malgré, oui.
Malgré Internet aussi.
Certes, Internet nous donne des moyens d'échanger, mais je pense que la liberté de penser, que l'expression, c'est d'abord le courage intellectuel. Hein. C'est d'abord, tous les moyens sont là, mais si vous n'avez pas cette force de conviction, ce respect de l'autre aussi, je pense que ça ne sert pas à grand-chose.
Droit, liberté et foi, donc 9e cycle, 3 conférences débat, les jeudis 21-28 septembre et le mercredi 4 octobre. Ça se passe à l'école cathédrale, c'est tout près de Notre-Dame, à Paris. C'est sous la coprésidence de Mgr André Vintrois, archevêque de Paris, et de Monsieur Yves Piquet, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris. C'est vous-même qui organisez ces conférences, qui avez l'initiative. Est-ce qu'on connaît le menu de l'année prochaine ?
Non, écoutez, pas encore. Je sais que nous y travaillons, enfin, et que de toute façon, ça aura lieu. Je peux pas vous dire dans quelles conditions encore, mais c'est un. Nous les avons relancés là, et bien évidemment, les relançant, le train est donc parti et continuera.
Il y avait une petite interruption.
Il y avait une interruption de 4 ans.
À vos activités professionnelles.
Vos activités professionnelles aux uns et aux autres. Donc, il y a toutes les activités du cardinal aussi qui fait qu'on n'avait pas pu remettre ça sur pied.
Ce qui est quand même bien, et c'est une chose importante à souligner, c'est que ça tient aussi à la volonté des uns et des autres de faire quelque chose et de mettre les personnes en relation. Nous, c'est ce qu'on fait ici même à Canal Academy. On met en relation des personnes qui, à travers le monde, ont en commun l'intérêt pour l'Institut. Vous-même, vous mettez en relation des hommes d'église, des hommes de droit, ce qui en soi n'est pas évident. Y avait-il un précédent d'ailleurs ?
Il n'y avait pas de précédent, non, il n'y avait pas de précédent de ce type. Je crois que c'est peut-être les conférences, les grandes conférences intellectuelles que l'église initiait, mais une rencontre, homme d'église, homme de loi au plus haut niveau pour la réflexion, je pense que c'est la première fois.
Je rappelle que vous êtes avocat de l'Église concernant toutes les questions liées à la liberté d'expression. Merci beaucoup, Maître Thierry Massis.
Merci.